Jasmin, et cette question face au terrorisme, le printemps tunisien est-il en danger, tout comme sa marche vers la démocratie? Autour de la table des mots de la faux, Belir Nabdi, directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, bonjour.
Bonjour.
Et Isabelle Labéry, chef du service Monde à France Info, bonjour Isabelle.
Bonjour.
Cette transition démocratique de la Tunisie est-elle en danger face au terrorisme?
Alors, ce qu'on peut dire d'abord, c'est qu'il y a des vrais acquis depuis 5 ans. La Tunisie, elle a adopté une nouvelle constitution, elle a eu des premières élections libres, législatives et présidentielles. La vie démocratique, elle existe dans les partis politiques, les médias, la société civile. Ça, c'est un constat. Il y a quand même beaucoup d'ombre au tableau. D'abord en raison de la situation économique, le chômage, les jeunes, notamment de l'intérieur, ils n'ont pas de visibilité, pas de perspective, parce qu'il n'y a pas de croissance, hein, on sera encore à moins de 1% cette année. Il y a d'ailleurs des mouvements sociaux qui reprennent dans certaines zones du pays. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, on en a évidemment beaucoup parlé, c'est la menace islamiste. Cette menace, elle a toujours été là, il faut le rappeler, hein, localisée, limitée dans la zone frontalière avec l'Algérie sur le Moshambi. Mais c'est vrai que depuis le printemps 2015, elle a pris une autre ampleur avec des attaques dans des lieux urbains. On peut le rappeler, l'attaque du musée du Bardo à Sousse en juillet. Et puis le dernier en date attentat, c'était le 24 novembre dans le centre de Tunis. Il faut pas tout mettre sur le compte des insuffisances de l'appareil sécuritaire, on en parlera peut-être, mais il y a une volonté qui est de déstabiliser le pays, et ce qui est terrible, c'est que la Tunisie, elle s'enfonce, oui, vraiment, ça on peut le dire. Si on prend le tourisme, sur un an, les nuitées ont été en baisse de 60%, c'est énorme, et ça porte atteinte vraiment au cœur du pays, donc oui, là il y a danger. L'autre danger, c'est aussi la crispation sécuritaire, parce que le gouvernement, pour lutter contre le terrorisme, a bien mis en place un arsenal législatif qui est très contraignant, et dans la société civile, on dit même que certaines lois sont aujourd'hui liberticides. Donc c'est en cela, oui, que cette transition est aujourd'hui en danger.
Belir Nabdi, la Tunisie, démocratie fragilisée ou renforcée, enfin, quelle est sa situation actuellement?
Forcément une situation contrastée, parce que d'un côté, entre l'ancien régime et la situation d'aujourd'hui, il y a quand même des avancées sur le plan démocratique, comme ça a été remarquablement résumé. On a connu une succession d'élections libres et pluralistes, ce qui est exceptionnel, oui, y compris dans le cas tunisien et à l'échelle du monde arabe. La liberté d'expression est une réalité, le multipartisme est une réalité. Aujourd'hui, le principe ou le modèle démocratique est un modèle de référence. Les acteurs essayent de s'y référer et de s'y plier. Mais on est malgré tout dans une phase de transition qui, par définition, suppose de l'acculturation, c'est-à-dire d'une adaptation des différents acteurs. Hein, les acteurs politiques, les nouveaux partis, l'appareil d'État, l'administration autrement dit, parce qu'il y a le fléau de la corruption derrière, mais aussi l'appareil sécuritaire. Et comme ça a été rappelé, on est aussi aujourd'hui confronté à un équilibre délicat entre, d'un côté, assurer les nouvelles libertés conquises par les Tunisiens et, de l'autre, garantir la sécurité. Ce qui n'est pas sans rappeler d'autres situations de pays qui sont également confrontés au spectre terroriste.
Isabelle Labéry.
Oui, certains disent même que d'anciens éléments, ou des éléments plutôt de l'ancien régime, qui sont toujours dans l'appareil d'État, profitent du repli sécuritaire en ce moment pour, en quelque sorte, reconquérir leur position. Ça aussi, c'est un danger pour la Tunisie d'aujourd'hui.
Il n'y a pas eu, effectivement, de véritable épuration massive après la chute de Ben Ali, mis à part certaines grandes figures des clans Ben Ali et Trabelsi. Et donc, on a effectivement encore la présence au sein de l'appareil d'État, mais aussi au sein de la classe politique, d'anciennes figures de l'ancien régime qui ont réussi à réintégrer le nouvel échiquier politico-administratif, notamment parce que même lorsque vous essayez de changer la donne, lorsque vous établissez un nouvel ordre politique et administratif, vous avez besoin de gens compétents qui ont de l'expérience. Et malheureusement, les Tunisiens ont vite été confrontés au péril sécuritaire ou au défi sécuritaire. Et qui dit défi sécuritaire dit capacité d'y répondre avec une certaine expérience en la matière. Et d'une certaine manière aussi, la Tunisie est un savoir-faire. La Tunisie, dans les années 80-90, avait déjà été confrontée à la menace à la fois islamiste, djihadiste et terroriste, et a su y répondre. C'est d'ailleurs face à ce défi-là que Ben Ali, en tant que ministre de l'Intérieur, avait fait ses preuves, et notamment en s'appuyant sur des services de renseignement et des services de sécurité efficaces. Et c'est la défaillance aujourd'hui de ces services qui participent à l'affaiblissement de l'appareil d'État lui-même.
Alors pourquoi la Tunisie ? Parce que c'est la démocratie et que c'est aussi un peu notre bouclier, j'allais dire, en Europe.
Ouais, la Tunisie, parce que précisément vous avez là un pays qui appartient d'un point de vue culturel et historique à ce qu'on appelle le monde arabe, au monde même arabo-musulman, et qu'en tant que quantité arabo-musulmane, dans l'esprit de certains, ou la majeure partie des salafo-djihadistes, il n'est pas possible que cette entité, que cette population puisse entrer dans le cadre d'un modèle considéré par eux comme impur, le modèle démocratique, qui ne participe pas à leur référence fait de califat, cet État transnational qui rassemblerait l'ensemble des croyants. Et donc, à partir de là, il s'agit de faire capoter, de faire échouer cette transition démocratique en imposant d'autres référents. Parce que, encore une fois, dans leur esprit, la démocratie est associée à l'Occident.
Ce qui en fait une cible donc privilégiée.
Voilà, clairement. C'est une cible privilégiée. Il faut que cette transition échoue pour que, précisément, nulle autre entité arabo-musulmane ne puisse s'inscrire dans cette voie.
Est-ce qu'on sait aujourd'hui dans quel sens la pièce va tomber ? C'est-à-dire, est-ce que le sens de l'instabilité ou la Tunisie est plutôt dans la voie démocratique, de l'installation démocratique, durablement, je veux dire ?
Alors, durablement, c'est vraiment le mot juste, dans le sens où la Tunisie, comme l'ensemble des entités étatiques qui ont connu un soulèvement populaire en 2011 doivent être analysées et pensées aujourd'hui dans le temps long. On ne peut parler ni de réussite dans le cas tunisien, ni d'échec avéré pour les autres expériences, parce que il faut penser ces phénomènes-là vraiment à très long terme. On ne sait pas ce qui va advenir ni en Tunisie ni ailleurs, même si aujourd'hui, force est de constater que les situations sont pour le moins différenciées, qu'il y a une gradation extrêmement forte entre le cas tunisien, même s'il est contrasté, et le cas libyen, dans la mesure où la Libye n'existe pratiquement pas en tant qu'État souverain. C'est ce qu'on appellerait un État failli, qui connaît un chaos institutionnel et qui a émis de l'implosion de l'intérieur. Le cas syrien, naturellement, qui connaît une guerre civile particulièrement sanglante. Le cas égyptien, remarquable en ce sens où on a là presque un schéma idéal de la révolution qui a connu une contre-révolution, ce qui n'est pas sans nous rappeler un peu cette phrase dans ce chef-d'œuvre qu'est le Guépard, pour que tout change, il faut que rien ne change. Et là, pour le coup, l'institution militaire en Égypte a fait montre de sa capacité à revenir sur le devant de la scène en imposant finalement cette nouvelle figure du Raïs qui est Al-Sissi.
Est-ce qu'il y a des raisons, est-ce qu'il y a finalement des raisons d'espérer ? Est-ce que ce prix Nobel, un prix Nobel pour le quartet, pour le dialogue national tunisien, peut-il servir finalement le pays et cette transition ?
Alors, ce qui est intéressant avec la décernation de ce prix exceptionnel en soi, c'est qu'il symbolise un peu la position du monde occidental face à ce qui se passe en particulier en Tunisie. Il y a un soutien d'ordre rhétorique, d'ordre déclaratoire, d'ordre symbolique. Et il faut ici rappeler notamment que le président de la République française est lui aussi conscient de ce qui se joue en Tunisie. Il s'est déplacé régulièrement à des moments clés, notamment lors de l'adoption de la nouvelle constitution en janvier 2014, pour bien montrer qu'il était conscient de la dimension historique de l'expérience tunisienne. Mais dans le même temps, et par contraste, sur des éléments plus opérationnels, c'est là où le bât blesse, c'est là où les Tunisiens se sentent un peu abandonnés. Sur le plan de l'aide financière, sur le plan de l'aide logistique, sur le plan de l'aide sécuritaire. Alors, on commence à voir quelques signes, notamment un geste américain extrêmement fort qui a consisté à reconnaître un nouveau statut, l'État tunisien comme allié particulier, ce qui va permettre des aides particulière à l'endroit de la Tunisie, parce qu'effectivement la Tunisie joue finalement un rôle géostratégique extrêmement important, au-delà de la Tunisie, c'est l'Europe.
Oui, effectivement, et on en parlait de cette vertu de, entre guillemets, de bouclier. Bedir Nabli, merci, directeur de recherche à l'IRIS, auteur de l'essai géopolitique de la Méditerranée. C'est chez Armand Collin, et merci à Isabelle Labéry, chef du service Monde à France Info. Les mots de l'info, c'est sur France Info et franceinfo.fr.